Immigration, un débat biaisé, par Benoît Bréville. Le monde diplomatique enquête. Les flux migratoires en direction de l'Union européenne ont atteint leur plus bas niveau depuis le début de la crise des réfugiés déclenchée par la guerre en Syrie. Le nombre de franchissements illégaux des frontières du continent a été divisé par 9, passant de 1,8 million en 2015 à 204 219 en 2017, selon l'agence Frontex. Pourtant, on parle toujours autant d'immigration. Le thème risque même de dominer les questions européennes du printemps 2019. C'est en tout cas le souhait conjoint de messieurs Emmanuel Macron et Viktor Orbán. Craignant une invasion, le Premier ministre hongrois explique « Il y a actuellement deux camps en Europe. Macron est à la tête des forces politiques soutenant l'immigration. De l'autre côté, il y a nous, qui voulons arrêter l'immigration illégale. » Les ténors de l'extrême droite, portés par les sondages et par leurs bons résultats aux dernières élections, s'imaginent désormais majoritaires en Europe. « En Pologne, en Autriche, en Hongrie, nos idées sont au pouvoir !» s'est réjouie Mme Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, le 16 septembre. De son côté, M. Macron a désigné ses « nationalistes » qui prônent un discours de haine comme ses adversaires prioritaires le 29 août. Faire du président français le chef d'un parti pro-migrant, selon les mots de M. Orbán, témoigne d'un aveuglement qu'on peine à croire sincère. Avec la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, loi promulguée le 10 septembre, il a allongé la durée de la rétention administrative jusqu'à 90 jours, contre 45 auparavant, y compris pour les familles accompagnées d'enfants. Il a instauré le fichage des mineurs isolés, banalisé les audiences de demande d'asile par visioconférence, durci l'accès à un titre de séjour pour les parents d'enfants français, limiter le droit du sol à Mayotte, etc. Au milieu de ce brouhaha, la gauche radicale semble se déchirer entre les partisans de l'ouverture des frontières et ceux d'une régulation qui s'attaquerait aux causes des déplacements de population. Un objectif hors de portée, rétorquent les premiers, car le développement des pays du Sud, loin de diminuer les flux migratoires, contribuera au contraire à les alimenter. Cette objection connaît un succès grandissant depuis la parution en février dernier d'un ouvrage de Stephen Smith qui prophétise une ruée de la jeune Afrique vers l'Europe et une africanisation du vieux continent. Appuyé sur une multitude de chiffres et de statistiques, la démonstration de cet ancien journaliste passé par Libération, Le Monde et RFI, Radio France Internationale, paraît implacable. L'Afrique serait soumise à un rouleau compresseur démographique alimenté par la fécondité très élevée au sud du Sahara. D'après certaines estimations des Nations Unies, sa population passera de 1,2 milliard d'habitants en 2017 à 2,5 milliards en 2050 et même à 4,4 milliards en 2100. Pendant ce temps, le continent connaîtra un important développement économique. Les revenus des habitants augmenteront et un nombre croissant d'entre eux disposeront des moyens nécessaires pour aller chercher fortune ailleurs. Il faut donc s'attendre à une levée en masse du continent, à tel point que, dans 30 ans, 20 à 25% de la population européenne sera d'origine africaine, contre 1,5 à 2% en 2015. Avec de telles prédictions, Smith redoutait de soulever passions et polémiques. Son livre, bientôt traduit en anglais, en allemand, en espagnol et en italien, a au contraire reçu le prix de la Revue des Deux Mondes, une récompense de l'Académie française, et le prix Brienne du livre géopolitique décerné par le ministère des Affaires étrangères, ce qui lui vaut d'être désormais assorti en librairie d'un bandeau rouge portant l'estampille du Quai d'Orsay. Tandis que le philosophe Marcel Gauchet voudrait rendre sa lecture obligatoire pour tous les responsables politiques, dans une interview à l'Obs le 27 juin, M. Macron considère qu'il a parfaitement décrit cette démographie africaine qui est une véritable bombe. Pendant 6 mois, à l'exception de celle de l'anthropologue Michel Agier dans un entretien croisé, aucune voix n'a porté la contradiction à Smith. La première attaque en règle est finalement venue en septembre, sous la plume de François Héran. Dans une note de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, puis dans un article destiné au grand public, ce professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société, rappelle que 70% des émigrés africains restent sur leur continent, un chiffre stable depuis les années 1990. Mais il conteste surtout la méthode et les données utilisées par Smith. Exploitant la base bilatérale des migrations établie par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, il calcule que les Africains et leurs descendants constitueront 3 à 4% de la population européenne vers 2050, très loin des 25% redoutés. Errand ne discute pas l'idée d'une levée en masse de l'Afrique. Il considère simplement qu'elle n'aura pas lieu avant 2050. Pour déterminer l'ampleur des futures migrations africaines, Smith a repris les ordres de grandeur d'anciens mouvements de population, en particulier la grande migration transatlantique, au cours de laquelle, au XIXe siècle, 50 millions d'Européens se sont installés en Amérique, et l'émigration des Mexicains vers les États-Unis entre 1970 et 2015. Dénonçant cette méthode peu rigoureuse, Errand objecte: si l'on place l'indice de développement humain sur une échelle de 1 à 10, la plupart des pays subsahariens se situent à 1, tandis que le Mexique est en 6, la France en 9 et les États-Unis en 10. Autant les migrations du niveau 6 vers le niveau 10 sont massives, 25 millions de personnes dans les diasporas concernées, autant celles qui vont du niveau 1 au niveau 9 et 10 sont limitées, moins de 2,3 millions. Or, qui peut croire qu'à l'échéance 2050, l'Afrique subsaharienne aura brûlé les étapes du développement pour rejoindre la position relative actuelle du Mexique ? Autrement dit, dans les 3 décennies qui viennent, l'Afrique sera encore trop pauvre pour faire ses valises. Au-delà de leurs divergences, Smith et Errand partagent donc un même diagnostic. Les populations des pays très pauvres se déplacent peu et le développement économique, loin de freiner les migrations, contribue à l'encourager. Vous faites voler en éclats l'une de nos certitudes les plus ancrées, s'ébahit Alain Finkielkraut en interviewant le premier. Le philosophe semble alors découvrir un phénomène solidement établi depuis 1971. Avant cette date, prévalait un modèle dit néoclassique. On considérait que tout rapprochement du niveau économique entre les pays de départ et d'arrivée engendrait mécaniquement une diminution des flux migratoires. Puis ce schéma fut remis en cause par le géographe Wilbur Zelinski, qui pour la première fois avança l'hypothèse d'une transition dans la mobilité, désormais plus souvent appelée transition migratoire, dont il distingue plusieurs étapes. À mesure que les pays très pauvres se développent, leur taux de mortalité, notamment infantile, chute, la population rajeunit et le taux d'émigration augmente. Une fois atteint un niveau de richesse élevé, les départs d'habitants diminuent et les arrivées d'étrangers s'accroissent, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, guerre, effondrement économique, crise politique, qui peuvent radicalement changer la donne. Depuis 40 ans, de nombreuses études de cas ont confirmé ce modèle. Jadis pays d'émigration, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, la Corée du Sud, la Malaisie ou encore Taïwan ont achevé ce cycle et sont devenus des pays d'immigration. D'autres, comme la Turquie, l'Inde, la Chine ou le Maroc, pourraient opérer ce basculement dans les décennies qui viennent. Plus généralement, les économistes Michael Clemens et Anna Postel ont constaté qu'entre 1960 et 2010, le taux d'émigration avait augmenté dans 67 des 71 États qui sont passés du statut de pays à revenu faible à celui de pays à revenu intermédiaire. Le phénomène est si récurrent, indépendamment des lieux et des époques, qu'il paraît presque naturel. À moins que l'Afrique ne fasse exception à la règle, la croissance économique pourrait donc y provoquer une hausse spectaculaire de l'émigration, notamment dans la partie subsaharienne. Finkielkraut s'affole. Avec l'aide au développement, dont on pensait que c'était justement le moyen de fixer les Africains chez eux et qui est souvent invoqué, les pays riches se tirent une balle dans le pied. Pour expliquer ce phénomène, les chercheurs ont avancé plusieurs raisons. L'une d'elles, la seule que retient Smith et la plus souvent invoquée, concerne l'assouplissement de la contrainte financière. Émigrer coûte cher, Il faut payer le visa, le voyage, les frais d'installation. Un frein pour les plus pauvres. L'augmentation des revenus nets permet mécaniquement à un nombre croissant d'individus de disposer des fonds nécessaires pour se lancer dans l'aventure migratoire. Le vivier des candidats au départ étant d'autant plus important que la proportion de jeunes s'accroît. Mais si le manque de ressources peut assurément contrecarrer un projet migratoire, encore faut-il se demander pourquoi certains veulent quitter un pays en pleine croissance. La réponse apportée par les chercheurs est simple. Dans les États les plus pauvres, le développement économique n'est pas synonyme de prospérité pour tout le monde. La hausse de la productivité agricole transforme le monde rural et laisse sur le carreau une main-d'œuvre abondante, souvent jeune, de plus en plus formée, que l'économie industrielle et urbaine émergente ne parvient pas à absorber, notamment en lui offrant des emplois qualifiés en nombre suffisant. Bloqués dans les campagnes ou aux marges des villes, les laissés-pour-compte sont distanciés par ceux qui tirent leur épingle du jeu et peuvent profiter des bienfaits de la consommation. Dans un contexte de meilleur accès à l'information, cet écart alimente le désir de tenter sa chance ailleurs, que l'augmentation des revenus permet d'assouvir. Dans bien des cas désormais, le développement économique se conjugue en outre avec l'instauration du libre-échange, dont les effets sur les mouvements de population ont été largement démontrés. Le Mexique constitue à ce titre un cas d'école. Signé en 1992, l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, fut présenté à la population comme un moyen de réduire les flux migratoires. Carlos Salinas de Gortari, le président du Mexique, promettait alors « Les Mexicains n'auront plus besoin d'émigrer au nord pour trouver un emploi. Ils pourront en trouver un ici. » De son côté, l'économiste Philip L. Martin prédisait déjà l'inverse, et la suite lui a donné raison. Délivrés des barrières douanières, les États-Unis ont inondé leurs voisins de maïs subventionné et issu de l'agriculture intensive. La baisse des prix a déstabilisé l'économie rurale, jetant sur les routes des millions de campesinos, qui ne trouvaient à s'employer ni sur place, ni dans les nouvelles usines installées à la frontière. En moins de 10 ans, le nombre de clandestins mexicains aux États-Unis a augmenté de 144%, passant de 4,8 millions en 1993 à 11,7 millions en 2002. En signant en 2014 des accords de libre-échange avec une trentaine de pays africains, l'Union européenne pourrait ainsi alimenter l'immigration qu'elle prétend combattre. À aucun moment, Smith n'évoque le caractère inégalitaire de la croissance, les effets des logiques de marché, les processus d'accumulation du capital et l'accaparement des terres par de gros propriétaires qui détruisent l'économie paysanne en y introduisant le salariat. Si les études sur la transition migratoire aboutissent toutes au même résultat, c'est sans doute parce qu'elles observent le même type de développement, fondé non pas sur la recherche du plein emploi et la réduction des inégalités, mais sur le libre-échange, les privatisations, la flexibilité du marché du travail, la maximisation des avantages comparatifs pour attirer les investissements directs étrangers. En réalité, ce n'est pas le développement qui provoque l'immigration, mais l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, en particulier pour les jeunes. L'économiste Robert Lucas souligne « Toutes les données indiquent qu'un marché de l'emploi tendu dans les pays d'origine décourage les départs », tandis que Clemens et Postel précisent « Il y a indubitablement une relation négative entre le taux d'emploi des jeunes et l'émigration. Le taux d'émigration dans les pays dont le taux d'emploi des jeunes dépasse 90% est inférieur de moitié à celui des pays où seulement 70% des jeunes ont un emploi. » Invitant à ne pas confondre corrélation et causalité, le professeur Hein de Haas souligne enfin qu'une démographie dynamique n'engendre pas mécaniquement une forte émigration. Il rappelle « Les gens ne migrent pas à cause de la croissance démographique. Ils migrent seulement si la croissance de la population s'accompagne d'une croissance économique lente et d'un fort taux de chômage. Quand une forte croissance démographique coïncide avec une croissance économique forte, comme dans la plupart des monarchies pétrolières du Golfe, l'émigration est faible. » L'idée que des dizaines de millions d'Africains poussés par l'absence de perspectives, les guerres ou le changement climatique prendront le chemin de l'exil est aujourd'hui largement partagée sur le vieux continent. Les artificiers des paniques identitaires s'en saisissent pour réclamer plus de restrictions. L'Europe n'a pas vocation à devenir africaine, justifie Finkielkraut. D'autres exigent, mais à partir d'un constat fataliste, la liberté de circulation et l'ouverture des frontières. Par exemple, le manifeste pour l'accueil des migrants lancé par Mediapart, Politis et Regard détaille « Il est illusoire de penser que l'on va pouvoir contenir et a fortiori interrompre les flux migratoires. Dans les décennies qui viennent, les migrations s'étendront, volontaires ou contraintes. Elles toucheront nos rivages et notre propre pays comme aujourd'hui aura ses expatriés. Les réfugiés poussés par les guerres et les catastrophes climatiques seront plus nombreux. » Une autre voie serait possible, qu'il n'explore pas. Plus escarpée, elle partirait d'une remise en cause du modèle économique dominant afin de rendre leur société désirable aux populations souhaitant les quitter. Postuler pour le Sud, un destin tissé de crise et de misère, ne manifeste-t-il pas un certain pessimisme? Le ressentiment observé dans les pays d'accueil n'est pas non plus écrit d'avance. Il naît dans l'austérité généralisée, la déstabilisation de la protection sociale, l'affaiblissement des services publics, le choix politique de mettre en concurrence des pauvres avec de plus pauvres, publics et privés, actifs et retraités, smicards et chômeurs, pour l'obtention d'une aide, d'un logement social ou d'une place en crèche. L'arrivée de migrants apparaît alors comme une pression supplémentaire sur des ressources devenues rares, permettant à l'extrême droite de jouer sa stratégie de division des classes populaires. Madame Le Pen s'exclame « Moi, je fais le choix de privilégier les Français parce que je pense que c'est vers eux que nous devons diriger notre solidarité nationale. Et l'idée que l'on accueille de manière inconséquente et irresponsable